Pour ce 33e épisode, je vais partager avec vous le livre Buffettology, écrit par Mary Buffett et David Clark en 1997. Je vais vous parler des points que j'ai retenus du livre ainsi que les points que j'ai moins aimés. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Alors j'aimerais débuter en vous invitant à joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur où que vous pourrez poser vos questions et laisser des commentaires afin d'aider les autres investisseurs et simplement à avoir des réponses à vos questions. Donc c'est vraiment une communauté qui est en train de grossir et j'invite vraiment les gens à joindre cette communauté-là. Je partage de temps en temps des articles pour vous aider à mieux comprendre divers sujets. Donc aujourd'hui, on va parler du livre Buffettology qui a été écrit en 1997 par Mary Buffett et David Clark. Mary Buffett, c'est l'ancienne épouse du fils de Warren Buffett et David Clark, c'est un gestionnaire de portefeuille. Puis ils se sont mis ensemble pour essayer d'expliquer la manière que Warren Buffett pense. Puis j'aimerais débuter en vous expliquant les points que j'ai le plus retenus de ce livre-là. En premier, on a une citation que je vais vous dire qui se trouve à la page 18 du livre. Ça va comme suit. J'ai remarqué que Warren, comme un collectionneur sophistiqué, faisait très attention au prix qu'il était prêt à payer pour l'une de ses entreprises formidables. En fait, le prix de l'entreprise déterminait absolument s'il l'achetait. Je ne parle pas de savoir s'il pouvait se le permettre, c'est une évidence. Il cherchait simplement la bonne affaire. J'ai découvert que Warren identifie d'abord ce qu'il veut acheter et laisse ensuite le prix du titre déterminer s'il doit être acheté. Alors ça, c'est vraiment un point clé du livre. Warren, quand il investit, il ne va pas seulement regarder les rabais, il ne va pas seulement regarder ce qui est sous-évalué présentement sur les marchés. Il va évaluer les entreprises en premier, donc il va regarder la qualité. Il va vraiment rechercher les entreprises qu'il veut posséder. Puis ensuite, il va attendre le bon moment pour les acheter. Après ça, je peux faire d'autres liens par rapport à cette citation-là. Par exemple, à la page 32, ils disent que vous apprendrez qu'une action de 1500$ peut être bon marché et qu'une action à 2$ peut être extrêmement chère. Donc ça, c'est encore une fois, c'est très vrai. Il y en a beaucoup qui pensent qu'une action à 1500$, c'est surévalué. Mais il ne faut pas se fier seulement au prix. Le prix, en tant que tel, ne veut rien dire. C'est juste le prix de l'action. Après ça, il faut regarder la qualité. Je vous invite à écouter l'épisode numéro 18 qui se nomme 115 principes d'investissement. J'aborde ce point-là dedans, mais si je reviens un peu sur un exemple que j'avais déjà donné dans cet épisode-là. Par exemple, vous voyez deux voitures sur le marché et les deux sont à 5000$. Donc, vous décidez de faire inspecter les deux. Il y en a une qui a plein de problèmes, il y a plein de réparations à faire et l'autre qui n'a aucun problème, même est encore mieux, elle vaut plus cher que le 5000$. Bien, c'est sûr que vous allez acheter cette deuxième voiture-là. Donc, c'est la même chose sur les marchés. Même s'il y a deux entreprises à 1500$, il y en a une qui pourrait être vraiment pas chère par rapport au prix qu'elle est, parce qu'elle est vraiment formidable, puis c'est vraiment une bonne entreprise. Donc, le prix en bourse n'a pas rapport. C'est vraiment, il faut juste faire ses calculs, bien évaluer pour voir si ça vaut la peine d'être acheté ou non. Et dans le livre Buffettology, le chapitre 12 est spécialement consacré à comment déterminer quel genre d'entreprise vous voulez posséder. C'est vraiment un chapitre important parce que c'est vraiment ça explique la manière que Buffett y pense. Vous pouvez écouter l'épisode numéro 27 qui parle de l'évolution de l'investissement en valeur. Et dans ce chapitre-là, on remarque vraiment le passage de la première ère à la deuxième ère. Donc, pour mieux comprendre ça, je vous invite vraiment à l'écouter cet épisode-là. Mais il y a eu trois ères du value investing. Puis là, c'est vraiment le passage du premier au deuxième. Je vous explique. Donc, dans la première ère, c'était l'ère de Benjamin Graham. Benjamin Graham, il possédait beaucoup d'entreprises comme... souvent proche d'une centaine. Puis, il n'était pas tout excellent. Il y en avait même des médiocres. Puis, il y en avait beaucoup trop pour tout bien les connaître. Par contre, il les achetait sous-évalués puis il s'assurait d'avoir une marge de sécurité. Après ça, de l'autre côté, on a le passage à deuxième ère que Buffett a combiné la technique de Graham avec celle de Charlie Munger et de Philip Fisher. Charlie Munger et Philip Fisher, eux, ils investissent uniquement dans des excellentes compagnies avec une valeur qui augmente dans le temps et qui a une prédictabilité des revenus. Donc, eux, ils disent que si on ne peut pas prédire les revenus, c'est comme faire de la spéculation. Donc, c'est vraiment important de voir où que l'entreprise s'en va dans le futur et qu'elle grossisse constamment. Et Buffett a vraiment combiné ces deux pensées-là. Donc, il va acheter seulement des entreprises de qualité, mais aussi sous-évaluées. Donc, comme ça, il y a une marge de sécurité, puis il pourra faire plus de rendement dans le temps. Puis, Warren Buffett a classifié deux types d'entreprises. En premier, on a les entreprises de produits de base, et ensuite, on a les entreprises excellentes. Dans le chapitre 14, ça dit les points à identifier pour les entreprises de produits de base. Donc, ça, c'est des entreprises que lui, il ne va pas acheter. C'est des entreprises qui, par exemple, vont avoir une faible marge de profit. Donc, à cause des prix compétitifs, il y a la présence de plusieurs producteurs. Donc, par exemple, à l'épicerie, il y a plusieurs marques d'huile. Mais ces marques d'huile-là, ils se font compétition entre un et l'autre. Et à cause de ça, ils doivent baisser leur prix pour être au même niveau des compétiteurs. On va aussi avoir une absence de loyauté envers la marque. Donc, peu importe la marque d'huile que je mets dans ma friteuse, ça m'importe peu. Donc, je vais souvent prendre le moins cher. Par contre, si on regarde les entreprises excellentes qui ont dédié le chapitre 16, ils l'ont divisé en 9 questions pour identifier les entreprises excellentes. Par exemple, il y a une des questions, c'est « Est-ce que l'entreprise a un monopole? » Donc ça, c'est super important. Il ne faut pas que ce soit une entreprise qui soit dans un secteur ultra compétitif comme les différentes sortes d'huile. Il faut vraiment qu'il y ait un monopole sur le marché et que l'entreprise soit un leader dans son domaine. Aussi, une autre question, c'est combien l'entreprise doit débourser pour maintenir ses opérations actuelles? Donc, plus que les coûts sont élevés, moins qu'il y aura une croissance possible parce qu'il n'y aura plus assez d'argent pour grossir. Donc, c'est super bon quand une entreprise a vraiment besoin de peu d'argent pour faire ses opérations. Elle va pouvoir accumuler beaucoup plus de liquidités et ne pas avoir de dettes. Donc, au final, Warren Buffett va toujours essayer de comprendre ce que l'entreprise fait et comment ses produits sont utilisés par le public, ses utilisateurs. S'il ne comprend pas, il ne va pas acheter l'entreprise. Donc, il va seulement acheter ce qu'il comprend et voir s'il y a un potentiel pour le futur, voir si l'entreprise va pouvoir grossir convenablement. Et c'est vraiment ça qui l'attire. Maintenant, par rapport à un autre sujet, à la page 139, il y a une citation intéressante que voici. « Si une entreprise a eu une mauvaise année, la bourse va faire descendre le cours de l'action, même si toutes les années précédentes ont produit d'excellents résultats. » Alors là, Buffett, il reconnaît qu'il est normal pour une entreprise d'avoir des moins bonnes années, mais qu'est-ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Ici, la raison pourquoi est temporaire, il n'y a pas de raison de vendre l'entreprise et dites-vous que c'est juste... Ça va être une mauvaise année en bourse, mais les prochaines années devraient être fructueuses. Par contre, si c'est un problème qui survient au niveau de l'entreprise, au niveau de sa manière d'opérer, il y a un changement au niveau des utilisateurs, bien là, il faudrait commencer à se poser des questions et à se demander est-ce que l'entreprise va faire quelque chose pour changer ça? Est-ce qu'elle va juste continuer comme Blockbuster, par exemple, qui n'a pas voulu s'adapter à l'arrivée d'Internet? Ils ont continué à avoir des magasins physiques, ils n'ont rien voulu savoir d'Internet. Bien, ils ont fait faillite. Et c'est vraiment Netflix qui a pris le dessus. Donc, il faut que l'entreprise s'adapte, sinon ça peut être une bonne raison pour vendre. Une autre citation que j'ai trouvée quand même drôle, c'est à la page 173 qui dit « Warren croit que la diversification est quelque chose que les gens font pour se protéger de leur propre stupidité. » Alors, je trouve ça quand même drôle parce qu'à l'école, on apprend à avoir un portefeuille diversifié, mais c'est pas nécessairement bon parce qu'on connaît moins les entreprises. Et Warren disait pas ça exactement comme ça quand il parlait aux gens. Il disait plutôt que les gens faisaient ça pour se protéger de leur ignorance. Donc, les gens ne sont pas nécessairement stupides, mais bien ignorants à cause de... Ils n'ont pas fait assez de recherches sur leur entreprise et ils ignorent qu'est-ce qui va arriver dans le futur de cette entreprise-là ou bien ils ignorent si c'est une excellente entreprise. Donc, pour se protéger, pour prendre le moins de risques, ils achètent plus d'entreprises pour être plus diversifiés. Mais selon moi, c'est un plus grand risque de faire ça parce qu'on risque d'acheter des moins bonnes entreprises et ces moins bonnes entreprises-là, s'ils vont mal, vous allez perdre plus d'argent que si vous étiez moins diversifié, mais que vous aviez acheté seulement des très bonnes entreprises. Si on passe maintenant au point que j'ai moins aimé, En fait, le livre, en général, fait plus référence à la deuxième ère du value investing, alors que là, on est beaucoup plus dans la troisième ère. Donc, il va y avoir des exemples désuets et certains calculs désuets. Par exemple, il y a un exemple que ça m'a frappé, c'est les cigarettes Marlboro. Puis, ces cigarettes-là, dans le livre, il en parle comme si c'était la marque de cigarettes. Puis, c'était vraiment populaire à l'époque. Par contre, aujourd'hui, il y a eu tellement d'études que la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Donc, ça l'a fait diminuer les ventes de l'entreprise. Alors, c'est plus nécessairement une entreprise exceptionnelle. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours suivre ces entreprises et voir les tendances, voir qu'est-ce qui se passe dans le marché pour voir si l'entreprise va prospérer dans le temps. On a d'autres exemples comme IBM et Coca-Cola. Coca-Cola, la croissance est plus ou moins celle d'avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une entreprise, disons, de dividendes. Mais oui, avant, c'était une excellente compagnie. Mais aujourd'hui, l'entreprise est quand même mature. Vous n'aurez pas autant de rendement qu'avant. Aussi, quand je parlais des calculs désuets, en fait, le livre est divisé en deux parties. La première partie, ça parle vraiment de la manière que Warren Buffett investissait. Et la deuxième partie, c'est plein de calculs pour savoir comment évaluer une entreprise. Donc, ça peut sembler quand même intéressant, mais les calculs s'appliquent plus beaucoup pour la troisième ère d'investissement valeur qui est aujourd'hui. Oui, ça peut donner une bonne base à ceux qui ne connaissent pas ça, mais il y a des éléments à prendre en compte. Par exemple, il faut faire des ajustements dans nos calculs. Donc, on va être prêt à payer plus cher pour telle compagnie à cause de X raisons et Y facteurs. Donc, c'est des petits ajustements qu'on va faire. Et aussi, si l'entreprise n'est pas encore profitable, il y a certains ratios qu'on ne va pas regarder. Il y en a d'autres qu'on va plus regarder. Donc, c'est vraiment des choses qui diffèrent de l'époque. Et aussi, il parlait beaucoup des obligations. Et à l'époque, les obligations, ça pouvait rapporter beaucoup. Par exemple, dans le livre, c'était autour de 10%. 10% pour une obligation, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, ça rapporte plus rien. Puis même les comptes de banque, à l'époque, rapportaient 6% d'intérêt, imaginez-vous. Encore aujourd'hui, ça rapporte absolument plus rien. Et eux, ils basaient beaucoup leurs calculs sur ces facteurs-là. Donc, si l'entreprise pouvait vous rapporter plus que les obligations ou votre compte de banque, ben là, ça valait la peine d'investir. Mais aujourd'hui, c'est plus totalement comme ça qu'on fait nos calculs. Alors, en général, oui, je recommande ce livre-là. C'est très, très bon pour voir la vision à long terme, pour voir quel genre d'entreprise il faut acheter. Il y a des bons exemples dedans, comme Coca-Cola, c'est un très bon exemple. Par contre, c'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure entreprise à acheter. Mais oui, c'est un bon exemple pour voir comment l'entreprise a évolué. C'est toujours bon de voir des exemples antérieurs qui ont fonctionné. Aussi des exemples qui n'ont pas fonctionné pour voir pourquoi ils n'ont pas fonctionné justement. Mais il faut faire attention aux calculs qui sont présentés dans le livre, qui s'appliquent différemment aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a un nouveau Buffettology qui a été écrit en 2002. Je ne l'ai pas lu, mais peut-être que dans ce livre-là, il y a des exemples différents, peut-être qu'il y a des calculs différents, peut-être qu'ils tiennent en compte que les obligations, c'est plus autant élevé qu'avant. Alors, ça pourrait être un livre à considérer. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce survol de livre. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la communauté du podcast La Vraie Valeur et à vous abonner à l'émission afin de ne rien manquer. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.